Bien, il est l'heure et le vidéoprojecteur marche, profitons-en. Donc aujourd'hui, on va voir, c'est le cinquième cours, s'il vous plaît. C'est donc le cinquième cours et on va continuer donc sur la récursion. On va voir deux exemples un peu plus fouillés que les précédents qu'on avait vus, mais qui, l'un et l'autre, en fait, montreront que le schéma général de récursion est toujours valable. Et puis, au passage, nous verrons quelques caractéristiques supplémentaires syntaxiques de Scheme, qui sont les blocs séquentiels et les fonctions internes. Donc aujourd'hui, principalement, récursion sur les listes, avec deux exemples plus fouillés qu'auparavant. Donc ça, c'est pour vous remettre en mémoire le schéma général de récursion sur les listes que l'on avait vu la fois dernière et par lequel on avait terminé. La récursion sur les listes a comme schéma général que si vous voulez définir une fonction récursive nommée ici fonction récursive frec et que l'argument sur lequel vous décidez de faire une récursion est la liste grand L qui se trouve ici, alors le schéma général a pratiquement toujours la même, comment dire, structure, à savoir si la liste est vide, vous avez un cas de base qui traite le cas de la liste vide, et ici vous mettez n'importe quel traitement qui permet de dire ce qu'est la valeur dans le cas de la liste vide, et soit la liste n'est pas vide, auquel cas elle a un quart et un coup d'heure, et rappelez-vous la règle que je vous ai indiquée la fois dernière, et que vous devez vous, comment dire, vous réciter, que vous devez vous réciter tous les matins tel un mantra qui est que on ne prend pas le quart, le coup d'heure de quelque chose dont on ne sait pas si c'est pas une liste non vide. Là, ayant fait le test, la liste n'est pas vide, je peux prendre le quart et je peux prendre le coup d'heure. Donc la récursion sur une liste est très simple, il suffit d'appliquer la même fonction sur le reste de la liste et de combiner le résultat obtenu avec le premier terme, la combinaison des deux choses donnant le résultat final. On l'avait vu dans le cas de la longueur d'une liste, le traitement en fait que l'on faisait pour combiner le premier terme avec la longueur de des autres termes était simple, on faisait simplement plus 1. Lorsqu'on voulait faire la somme des termes d'une liste, le traitement était simple, on additionnait ici plus le premier terme avec la somme de tous les autres termes. Donc aujourd'hui, on va voir quelques exemples supplémentaires de récursion sur les listes qui vont obéir à ce même schéma. Mais auparavant, quelques conseils, je dirais, sur la façon d'envisager la récursion. On a vu la fois dernière que la récursion était effectivement assez liée au problème de récurrence, sauf qu'elle est vue en fait de façon constructive, c'est-à-dire sous une forme telle qu'on puisse exécuter les calculs. Rappelez-vous qu'on bannit en informatique les trois petits points. Les trois petits points sont des choses extrêmement ambiguës et surtout, ce n'est pas calculable, ce n'est pas constructif. L'informatique, c'est d'arriver à des résultats et pour arriver à ces résultats, on exhibe des algorithmes, algorithmes qui doivent terminer dans des temps, comment dire, importants, intéressants. C'est-à-dire que vous voyez la fin de vos résultats. Donc en général, quand vous avez un calcul à faire, une façon de faire, et vous verrez en fait qu'il en existe d'autres, parce que la récursion n'est pas le seul, comment dire, moyen qui existe pour résoudre certains problèmes. La récursion est très adaptée à un certain nombre de structures de données dites récursives, que sont les listes et que sont les arbres. Elle n'est pas forcément adaptée à d'autres types de problèmes, notamment sur les graphes, chose que vous verrez au deuxième semestre et l'année prochaine. Donc assez souvent, la technique consiste à dire, pour résoudre ce problème-là, je sais en fait le découper en une combinaison de problèmes plus simples. Et ça, c'est ce qu'on appelle toutes les approches descendantes, qui consistent à prendre le problème initial et à essayer de le décomposer en des problèmes plus simples, de manière à eux-mêmes à se rattaquer à ces problèmes-là et les décomposer eux-mêmes en des sous-sous-problèmes plus simples, etc. La grande force de la récursion, c'est que si vous arrivez à prendre un problème et à le décomposer en une suite de sous-problèmes, si ces sous-problèmes sont de la même nature, alors le travail est quasiment fini. Pourquoi ? Parce que vous utiliserez exactement la même technique pour réduire les sous-problèmes que vous avez réduit les problèmes. Rappelez-vous quand vous avez fait, peut-être en mathématiques, ce qu'on appelle les recherches dichotomiques. Les recherches dichotomiques consistent à dire quand je cherche un point qui, dans un certain intervalle, je coupe l'intervalle en deux et j'ai un test qui me permet de dire si le point que je cherche est à gauche ou à droite. Mais une fois que vous avez fait ça, La bonne idée, c'est que vous vous retrouvez à rechercher un point dans un segment et vous réappliquez la même technique, à savoir redécouper le segment en deux pour savoir si le point que vous cherchez est à gauche ou à droite. Cette technique, elle est vieille, elle a même été publiée dans une revue sérieuse sous le nom de la technique du loup dans l'Alaska. C'est comment faire pour trouver un loup dans l'Alaska? Eh bien, vous prenez l'Alaska et vous mettez une clôture en fer, en grillage, au milieu de l'Alaska. Vous mettez sur la clôture et vous essayez d'entendre le loup. Si le loup hurle à gauche, c'est qu'il est à gauche. S'il hurle à droite, c'est qu'il est à droite. À ce moment-là, vous reprenez la moitié de l'Alaska, vous la redégrillagez, et petit à petit, vous arriverez à réduire l'Alaska à quelque chose qui fera 1 mètre carré, et là, vous devriez voir le loup normalement. Donc, c'est la même technique, ce qui veut dire que vous réappliquez exactement la même chose. Vous n'avez pas inventé de nouvelles techniques pour résoudre les sous-problèmes, puisque la même technique est encore valable sur les sous-problèmes. Et ça, c'est la force de la récursion qui permet de dire, si vous arrivez à réduire un problème en des sous-problèmes de même nature, alors il ne reste plus que les 4 bases à faire et c'est terminé. Donc là, en fait, il y a un certain nombre de conseils qui consistent à essayer de trouver la fameuse relation de récursion qui permet de prendre un problème initial et de le casser en une suite de sous-problèmes de même nature. Donc, si vous arrivez à casser vos problèmes, se pose bien sûr au bout d'un moment le problème des 4 bases, c'est-à-dire il y a des problèmes que vous ne pouvez pas casser indéfiniment. Rappelez-vous que tout ça ne marche que parce que vous êtes sur ce qu'on appelle domaines bien fondés, c'est-à-dire que en partant d'un nombre entier naturel, si vous enlevez moins 1 ou moins 2 ou que vous le divisez par 2, c'est-à-dire que vous le rendez plus petit, vous finirez par tomber sur 0. Ce n'est pas le cas dans Z, puisque les nombres vont jusqu'à moins l'infini sans aucun problème. Mais c'est le cas dans les listes. Les listes ont un nombre fini d'arguments, et si vous retirez des éléments d'une liste, eh bien au bout d'un moment, il n'en restera plus. Et vous tomberez sur le cas de base, qui est la liste, effectivement, avec zéro terme dedans, donc c'est un cas de base. Donc systématiquement, essayez de penser, effectivement, récursif, c'est tout le but de ce semestre-là. Vous verrez qu'il existe d'autres méthodes de pensée. La méthode récursive est par contre prouvée comme étant plus puissante que beaucoup d'autres méthodes, et c'est pour ça qu'on vous l'apprend en premier. Alors, je l'ai dit ça, mais je le répète juste encore une dernière fois, les schémas de récursion qu'on a vus qui consistent à prendre des problèmes plus simples, soit en prenant un nombre plus petit comme n-1, soit en prenant un nombre plus petit comme n divisé par 2, soit en prenant une liste privée de son premier terme, soit en prenant une liste de longueur divisée par 2, etc., ou soit en prenant que les termes 1 sur 2 de la liste, l'idée à chaque fois est que quand vous vous rappelez récursivement, il faut qu'il y ait un argument qui ait diminué de taille. Quelle que soit la façon dont vous calculiez la taille, il faut que la taille diminue. Si la taille diminue et qu'elle est représentée par un entier naturel, alors nécessairement vous vous retrouverez un jour avec des problèmes de taille 0. Et à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez plus qu'à les résoudre, à les considérer comme des 4 bases sur lesquelles vous pouvez dire effectivement quelle est la valeur finale. Donc voilà en gros les petits conseils, je dirais, pour la récursion. Tout le problème, bien sûr, est de trouver la fameuse relation de récursion. Et là, c'est un même problème que quand vous avez une démonstration par récurrence, de trouver effectivement comment on peut passer à n+1 si on suppose que toutes les propriétés jusqu'à n sont vraies. Alors, on va prendre 2 problèmes particuliers. L'un qui s'appelle ajoute en fin et l'autre qui s'appelle append, parce que c'est une fonction, en fait, qui préexiste dans le système, mais qui est programmée exactement comme on va le voir. Donc, ici, je vous ai donné les 2 spécifications de ces 2 fonctions-là. Si vous pouviez arrêter de parler au fond, ça, j'en serais fort heureux. Alors, la première spécification, ajout enfin, permet de dire, je suis une fonction binaire, et je prends 2 choses, vous voyez, un terme et une liste. Et le but, c'est de fabriquer une nouvelle liste qui sera semblable à la liste que je reçois en 2e argument, sauf que le terme que je prends ici en 1er argument, j'aimerais qu'il apparaisse à la fin de la liste. Donc, j'ajoute à la fin de L le terme X. C'est tout bête, et c'est en fait ça que je veux. Vous verrez en fait que ce problème-là est à quelques caractères près, la solution de ce problème-là est à quelques caractères près la même que le sous-problème qui est là, à savoir, je prends une liste L1 et une liste L2, et je vais faire la concaténation des 2 listes, c'est-à-dire fabriquer une nouvelle liste qui aura pour taille la taille des 2 listes, la somme des tailles des 2 listes, qui aura au début les termes de L1 et qui aura à la fin les termes de L2. La concaténation, donc caténa en latin c'est la chaîne, Ça permet effectivement de dire, en gros, j'ai un train et un deuxième train et je les concatène, c'est-à-dire que je fais en sorte que les wagons du deuxième soient accrochés à la fin des wagons du premier. Donc la concaténation ici est représentée par le fait que si vous me donnez une liste de trucs et que vous me donnez une liste des mêmes trucs, d'accord, alors je vous fabriquerai une liste concaténée contenant toujours ces mêmes trucs. Si vous me donnez une liste d'images et une liste d'images, je vous fabriquerai une liste d'images concaténée. Si vous me donnez une liste de booléens et une liste de booléens, je vous donnerai une liste de booléens. Donc, la fonction append est, comme on dit, polymorphe, puisqu'elle est capable de prendre n'importe quelle liste et de les concaténer de manière à vous rendre un résultat qui est une liste. Ajout enfin, A, effectivement, est polymorphe parce que si vous me donnez par exemple une image et une liste d'images, je vous rajouterai l'image à la fin de la liste d'images. Si vous me donnez une liste de fonctions binaires rendant des booléens et ici une liste de fonctions binaires rendant des booléens, alors je vous rendrai une liste de fonctions binaires rendant des booléens. Donc vous voyez bien en fait qu'il y a accord ici sur le type du terme par rapport à la liste des termes qui sont là. Alors regardons tout de suite comment en fait on peut écrire un ajout enfin parce que c'est banalement une simple récursion encore une fois. Donc l'idée est de comprendre comment peut-on ajouter à la fin d'une liste. J'ai un terme, donc qui est X, j'ai une liste qui contient des termes E1, E2, EN, et en fait je voudrais rajouter quelque chose derrière. Or, vous savez que la seule opération que j'ai, la vraiment primitive pour créer des listes, c'est cons, et cons me permet d'ajouter des choses devant. Or là, justement, tout l'intérêt du problème, c'est qu'on demande d'ajouter à la fin et pas devant. Si on m'avait demandé de mettre X devant L1, la réponse ajoute en tête, c'est simple, la réponse c'est cons. Mais ajouter en fin, c'est compliqué parce qu'il faut rajouter à la fin et qu'il n'y a pas d'opération a priori primitive pour faire ça. Donc il faut arriver à comment dire, réfléchir un peu, et en fait, on voit que quand on a cette liste-là, on ne peut rien en faire sinon la reconstruire. C'est-à-dire que ajouter X à L1, l'idée est de se dire quel est le résultat. Le résultat est simple. Le résultat, je ne sais pas encore, enfin il est simple. Je ne sais pas exactement comment il est, mais au moins je sais que le résultat c'est une liste et que ce résultat il commence par E1. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un truc dans lequel il y a les E2, EN, et dans lequel il faut toujours ajouter X à la fin. Donc d'une certaine manière, pour l'instant, je ne vais pas encore aller très très loin, mais pour ajouter X à la fin de L1, L2, LN, à condition qu'il y ait bien sûr des termes, le résultat commence forcément par E1. Si le résultat commence forcément par E1, il suffit que je l'écrive. Et donc je dis la chose suivante. Pour ajouter X à la fin de L, alors si la liste L n'est pas vide, c'est-à-dire si je suis dans ce cas-là, elle a un premier terme et elle a d'autres termes, alors, eh bien, le résultat, c'est quelque chose qui commence par E1, je l'écris, je fabrique une liste qui commence par le terme E1, c'est-à-dire le premier de la liste. Donc j'en suis là maintenant. J'ai fabriqué une liste qui commence par E1, mais maintenant je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière jusqu'à la parenthèse fermante? Je me dis, c'est simple ce qu'il y a derrière. Il y a E2, EN et X. Mais comment puis-je faire pour obtenir justement ce E2, EN et X? Eh bien là je me dis, mais il faut en fait que j'arrive à mettre X à la fin de E2, EN. Et bingo, à ce moment-là, j'ai gagné, puisque en fait, j'ai une fonction qui sait faire ça, c'est ajout enfin. Ajout enfin, c'est ajouter X à la fin du coudeur de L, c'est-à-dire E2, EN. J'ai donc en fait simplement, ici, en termes plus simples, je recopie la liste L, tout bêtement, jusqu'à, bien sûr, avoir recopié tous les termes. Et là, maintenant, on se rend compte qu'on arrive au cas de base qui est, mais comment on fait pour ajouter X à une liste qui est vide? Ajouter X à la fin d'une liste qui est vide, ça revient à dire j'ai X, j'ai la liste vide, le résultat, ça doit être la liste vide, c'est-à-dire rien, suivi de X. Mais ça, c'est la liste qui contient simplement X, tout simplement. Donc en fait, dans le cas de base, lorsque la liste L est vide, je fabrique la liste qui contient X. Donc, quand je dois ajouter X à la fin d'une liste vide, je rends la liste qui contient X, ce qui répond à la question. Et quand je dois ajouter X à la fin d'une liste L qui n'est pas vide, alors je sais que le résultat commence par le premier terme de la liste non vide, et que derrière j'ai tous les termes E2, EN et X, et bien ça je les obtiens simplement en disant, continue de mettre X à la fin du coup d'heure de la liste L initiale. Et donc, vous voyez en fait qu'en partant d'un terme et d'une liste, en fait, j'ai commencé à fabriquer des résultats alors que je ne savais pas trop comment faire, et je me suis retrouvé devant le sous-problème qui était de dire comment arriver ici à fabriquer E2, EN et X derrière. Mais mettre X derrière E2, EN, c'est exactement appliquer la même type de solution. Et donc, eh bien, j'appelle ma fonction récursive qui justement savait faire ça, et de fil en aiguille, j'arrive à me retrouver à devoir mettre X derrière la liste vide, et mettre X derrière la liste vide, c'est simplement fabriquer la liste qui contient X. Donc voilà en fait le code d'une première fonction qui est ajout en fin de L, qui permet effectivement d'ajouter un terme à la fin d'une liste. Et vous voyez que là encore, ça obéit au schéma récursif classique, à savoir que vous avez un define fonction récursive, un argument qui est la liste sur laquelle on fait la récursion, if paire de L, 4 bases, et dans le cas de L est une paire, c'est-à-dire contient au moins un terme, alors j'ai le quart de L qui est ici, l'appel récursif coudeur de L qui est ici, et je combine les deux résultats en disant, ben, cons, mets-moi le quart de L devant le résultat de l'appel récursif ici. Donc c'est exactement toujours la même moulinette pour toutes les récursions simples sur les listes. Donc je vous propose de regarder un petit peu maintenant les traces pour voir comment effectivement cette chose-là se calcule quand on demande à, par exemple, un environnement docker scheme de tracer les appels récursifs les uns après les autres. Donc ça, vous avez vu ça en TP. Donc j'ai dit que je voulais tracer les, comment dire, le ajout en fin, et j'ai demandé à ajouter 4 à la fin de la liste 1, 2, 3. Eh bien, j'ai un premier appel donc récursif, un premier appel pardon initial qui dit je voudrais ajouter 4 à la fin de 1, 2, 3, et si je regarde le code, je m'aperçois que je fais un appel récursif en ajoutant 4 à la fin de la liste 2, 3, c'est-à-dire la liste privée de son premier terme. Puis maintenant, encore appel récursif où je dis je voudrais ajouter 4 à la fin de la liste qui contient 3, puis je voudrais ajouter 4 à la fin de la liste qui ne contient rien. Là, je suis dans le cas de base et le résultat, ben, c'est 4. Donc maintenant, je peux combiner ce résultat-ci et le terme 3 pour obtenir 3, 4, puis combiner le résultat de cet appel récursif qui est 3, 4 avec le fait que j'avais 2 en premier terme, 2, 3, 4, et encore une fois la même chose pour obtenir enfin la liste 1, 2, 3 et 4 qui a été mis derrière la liste complète là. Donc voici ajout enfin qui est en fait un calcul récursif simple et vraiment calqué sur le schéma générique des listes. Donc je vous propose maintenant de regarder append qui est un problème un peu différent qui consiste à dire je voudrais maintenant prendre une liste L1 et une liste L2 et je voudrais faire en sorte que les termes de L2 apparaissent derrière L1. Donc j'ai une liste L1 que je représente quelque part. Donc la voici, L1, L2, on va les appeler E, EN. J'ai une autre liste que je vais appeler F1, F2, FP. Et ce que je veux obtenir, c'est une liste dans laquelle j'ai tous les termes du premier, E1, E2, EN, suivi des termes du deuxième, F1, F2, FP. Donc je cherche à obtenir une unique liste qui est la concaténation de la première et de la seconde. Alors, en fait, ben là encore je réfléchis et je me dis, ah, on me demande de faire des, soyons comment dire un peu méta, vous êtes étudiant, on vous fait un cours sur la récursion sur les listes, donc si on vous pose un exercice, c'est qu'il est sur la récursion sur les listes. Donc, on va faire une récursion sur les listes. Ah oui, mais on a deux listes. On a L1 et on a L2. Ah, sur laquelle faire la récursion. Là, effectivement, il faut un peu de flair, puisque vous avez deux listes, et en fait, on peut faire la récursion sur L1 ou sur L2. Il y en a une qui est efficace et l'autre qui ne l'est pas. Mais pour l'instant, essayons de voir un petit peu comment faire. Rappelez-vous que la seule façon de construire des listes, cons, consiste à rajouter, d'une certaine manière, des termes devant quelque chose. C'est-à-dire, en fait, que les listes ne sont pas une structure de données symétrique. On accède facilement à la tête d'une liste, au premier terme, on accède difficilement au dernier terme d'une liste. Donc, il y a deux solutions. On pourrait se dire, je pourrais essayer d'écrire append en utilisant, par exemple, ajout enfin qu'on vient juste de voir. Après tout, c'est une récursion simple qui consiste à dire, tant qu'il y a des termes là-dedans, je les prends et je les rajoute à la fin de L1. Donc, je ferai une récursion à ce moment-là sur L2 et pour chaque terme de L2, je le mettrai à la fin de L1. Essayons d'écrire cette variante-là. Voici donc la variante append, dans laquelle on va faire une récursion sur le deuxième terme, L2, en utilisant la fonction qu'on a juste vue précédemment, qui est ajout enfin. Donc, si je dois prendre, si l'idée est de prendre les termes de L2 et de les mettre à la fin de L1, on s'aperçoit bien sûr que la récursion est simple. Soit il y a des termes dans L2 et je les mets derrière L1, soit il n'y en a pas et j'ai terminé. Donc, je commence la récursion. Est-ce que L2 contient des termes? Oui. Alors, c'est très simple. C'est l'appel récursif append sur. J'ai dit que le premier terme de L2, je voulais le mettre à la fin de L1. J'appelle ajoute enfin. Et je dis, mets-moi le quart de L2 à la fin de L1. Donc ceci permet de dire, je prends le premier terme de la deuxième liste et je le colle à la fin de la première liste. Donc maintenant, je me trouve avec un appel où j'ai effectivement fabriqué mon résultat ici, mais j'ai un terme de moins dans L2 à coller derrière L1, donc je me rappelle récursivement avec CDR de L2. Vous voyez au passage que récursivement, ça va bien, comment dire, terminer, puisque L2 n'est pas vide, je prends son premier terme, je fais quelque chose, et je pars en récursion sur le reste de L2. Comme le reste de L2 a un terme de moins, fatalement, à un moment donné, L2 va être vide. Et quand L2 sera vide, eh bien, je n'aurai plus de terme à mettre à la fin de L1, donc le résultat, ça sera L1. Donc voilà la première façon de faire en faisant une récursion sur L2. Je prends chacun des termes de L2 et je les colle à la fin de L1. Quand j'ai plus de termes de L2 libres, ça veut dire que je les ai tous mis à la fin de L1, donc le résultat c'est L1. Donc voilà la première, comment dire, façon de faire. Alors vous voyez au passage là qu'il n'y a en fait aucune combinaison, si j'ose dire apparente dans le schéma récursif, entre le quart de L1 et append, puisqu'en fait c'est dans l'appel récursif que j'ai modifié les deux variables. Une en décrémentant, c'est-à-dire en la faisant décroître de taille CDR de L2. L'autre, par contre, a augmenté de taille, mais ce n'est pas gênant puisque ce n'est pas ma variable sur laquelle je fais ma récursion. Donc, vous voyez en fait qu'il y a une sorte d'invariant qui reste, qui est que la taille L1 plus L2 reste constante ici. Je diminue cette taille-là, j'augmente cette taille-là. Bon. Ce qui est important, c'est que je diminue celle-là. Donc, je vais tomber à un moment donné sur un L2 qui est vide. Et si L2 est vide, le résultat est alors L1. Donc voilà une première programmation de append en faisant une récursion sur le deuxième terme. Ce qu'on va voir maintenant, c'est une récursion sur le premier terme L1. Donc j'ai ceci, une première liste, j'ai une seconde liste et je veux fabriquer tout ça. Je ne me pose pas de questions. Je vois bien que ce que je dois fabriquer, c'est quelque chose qui est une liste. Donc pour la fabriquer, il faudra que j'appelle cons. Et c'est quoi? Cons, rappelez-vous, demande deux choses, le premier terme et tous les autres termes. Alors, le premier terme, c'est simple, c'est le quart de L1. Le premier terme ici, c'est le premier terme de la première liste. Donc, je l'écris tout de suite, pour concaténer L1 et L2, si L1 n'est pas vide, alors je fabrique une liste où le premier terme, c'est le quart de L1. Bien, j'en suis donc, j'ai déjà fabriqué ça. Ayant fabriqué ça maintenant, je me dis, ah oui, mais derrière, je dois mettre comme second argument de mon cons quelque chose qui me fabrique E2, EN, F1, FP. Comment faire? Alors je réfléchis, et puis mes yeux tombent à un moment donné sur la fonction append qui dit, ah mais attendez, j'ai une fonction qui justement, si on lui donne deux listes, sait concaténer les deux listes. Ben alors, pour fabriquer la liste E2, EN, F1, FP concaténée, il me suffit de concaténer la liste E2EN et la liste F1F2FP. Donc il me suffit de m'appeler récursivement avec le coudeur de la première liste et la deuxième liste non touchée. Bon, et bien maintenant je vois que en fait je prends les termes de L1 et je commence à bâtir une nouvelle liste en recopiant les termes de L1. Donc au bout d'un moment je tombe sur une liste L1 qui devient vide, puisque vous voyez bien dans l'appel récursif ici, l'appel récursif se fait sur le coudeur de L1, donc au bout d'un moment, L1 devient vide. Si L1 devient vide, je dois concaténer la liste vide avec une liste quelconque. C'est-à-dire, je dois concaténer la liste vide avec la liste F1, F2, FP. Mais alors, quel est le résultat? C'est la deuxième liste. Donc j'écris simplement que le jour où la liste L1 est vide, je n'ai plus rien en fait à rajouter devant L2, le résultat c'est L2 tout court. Donc voici la deuxième façon de faire append, qui celle-ci par contre est en récursion sur le premier terme L1. Donc on a deux solutions, et deux solutions qui n'ont rien à voir. L'une fait une récursion sur L1, c'est celle qui est au tableau. L'autre fait une récursion sur L2, c'est celle qui se trouve au tableau ici. Donc, là, vous vous rendez compte, quelque chose qui, comment dire, étonne souvent les étudiants, c'est que, en général, dans les mathématiques que vous avez fait au lycée, il n'y a jamais qu'une seule réponse. Et là, vous êtes en face d'un problème où il y a manifestement deux réponses différentes. Il y a deux réponses différentes, et en fait, le problème, bien sûr, en informatique, c'est d'être effectif, c'est-à-dire de se demander si les réponses sont comparables, c'est-à-dire si on les obtient, par exemple, dans le même temps, si elles consomment autant de mémoire, etc., etc. Donc l'idée est de regarder ce que l'on appelle la complexité, c'est-à-dire les temps de calcul de ceci par rapport à ceci. Alors comment peut-on faire? Eh bien, mesurer un temps de calcul, c'est pas simplement prendre un chronomètre et puis le lancer sur un argument assez gros, c'est réfléchir pour savoir s'il n'y a pas une façon de déduire comment peut-on faire cette chose-là. Alors, quand je regarde le code qui est là, en fait, on voit que si je sais mesurer le nombre d'appels à, aux primitives qui coûtent du temps, alors je vais avoir une idée de la, je dirais, de la lenteur de la fonction. Dans toutes les primitives qui sont là, if c'est quelque chose qui est simple, pair c'est quelque chose qui est immédiat, car et coup d'heure, ce sont des choses qui sont immédiates, et là, effectivement, il faut le savoir. Mais cons, c'est l'opération qui, en fait, alloue de la mémoire, et c'est elle qui coûte cher. Donc ça, il faut le savoir. Dans toutes les opérations qui sont là, c'est l'opération d'allocation de liste, de création de liste, qui coûte cher. Donc, en général, ce que l'on cherche, c'est à minimiser le nombre d'appels à cons, de manière à ne pas allouer indûment de l'espace mémoire qui ne servira à rien. Si les deux solutions étaient égales en nombre de cons, alors on pourrait regarder le nombre de tests qu'elles font, c'est-à-dire sur le nombre de paires, et le nombre d'accès quart et coup d'heure qu'elles font sur la liste. Mais on serait, je dirais, à un niveau de détail un peu du second ordre. Là, on va simplement regarder les appels à cons. Je prends ce schéma-là, et je regarde ma liste qui est là. Que va-t-il se passer? Combien y a-t-il d'appels à cons pour, lorsque j'ai à concaténer E1, E2, EN, F1, F2, FP, fabriquer le résultat final? Eh bien, je vois que, en fait, les appels récursifs, je les compte, j'ai un appel initial, et j'ai un appel récursif sur le coup d'heure, et l'appel récursif sur le coup d'heure dure jusqu'à ce que L1 soit épuisé. Donc on voit bien que le nombre d'appels à cons, c'est le nombre d'appels à append, et le nombre d'appels à append, c'est le nombre de termes qu'il y a dans L1. Puisque je prends le premier terme que je vais mettre dans le résultat, puis je prends le second terme que je vais mettre dans le résultat, et quand j'ai terminé L1, je dis le résultat c'est L2, j'ai terminé, je ne fais plus d'appel à cons. Donc je fais autant d'appels à cons qu'il y a de termes dans L1. Conclusion, je suis ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire que s'il y a n termes dans la liste initiale, alors il y a n appels à cons dans le calcul final. Donc, cette solution-là consomme n appels à cons pour le résultat qui est là. Maintenant, regardons le deuxième calcul qui se trouve ici. Alors, on a vu que pair c'était trivial, car c'est trivial, coup d'heure c'est trivial, donc les choses qui ne sont pas triviales, c'est les appels récursifs à append, et puis il y a aussi ce truc-là, ajoute enfin. Ajoute enfin, combien consomme-t-il pour fabriquer quelque chose? Alors, ce que l'on voit en fait, c'est que append ici s'appelle lui-même, et qu'on ne voit aucun cons dans le système. Conclusion, append s'appelle lui-même, mais comme il ne consomme pas de cons, son coût, ben oui, il s'appelle n fois, enfin il s'appelle n fois en fait sur le nombre de termes, plus exactement p fois, le nombre de termes qu'il y a sur L2, mais comme il ne consomme pas, son coût c'est 0 fois P2, donc c'est bon. Par contre, il fait P appel à ajoute enfin. Et donc, ajoute enfin, il faut regarder son code pour voir effectivement, comme le résultat, on sait forcément qu'il a été fabriqué, ça veut dire que le calcul, la consommation de liste a été ensuite cachée en fait là-dedans, dans ajoute enfin. Donc revenons sur le code de ajoute enfin pour voir effectivement comment c'était programmé. Et là, quand on regarde ajoute enfin, on voit que je fais un appel, je fais un cons par appel récursif, Et des appels récursifs, j'en ai autant qu'il y a de termes dans L. D'accord ? Donc ça veut dire que pour ajouter un terme à la fin de L, j'ai, si L mesure P de long, j'ai P appels à cons. Donc voyez bien que dans ajoute en fin, le coût en termes de cons de ajoute en fin, c'est la longueur du terme qui est là, L1. Conclusion. Lorsque j'ai L1 qui fait N de long et L2 qui fait P de long, je fais le premier appel récursif, j'appelle ajoute en fin avec un quart de L2 qui a une longueur 1 puisque c'est un unique terme et un L1 qui a une longueur N. Et là j'ai vu que en regardant le code de ajoute en fin, le nombre d'appels à cons c'est N. Donc à la première itération, c'est-à-dire au premier appel récursif, j'ai donc N termes appelés. Mais on a vu que des appels récursifs à happen, j'en avais autant qu'il y avait de termes dans L2. C'est-à-dire que quand P égale 1, je consomme N cons, mais quand P égale 2, eh bien quand P égale 2, j'appelle encore ajoute en fin, mais ce coup-ci avec un L1 qui contient un terme de plus. C'est-à-dire que je vais faire N plus 1 cons, en fait, sur le deuxième appel récursif. Et quand je vais continuer et que j'arriverai à P, je ferai N plus P cons dessus. Donc si maintenant je somme tout ça pour dire, eh bien en fin de compte, combien ça me fait, eh bien ça va me faire en fait la somme de tous les termes entre N et N plus P. Je vous passe les détails, c'est grosso modo proportionnel à N carré sur 2. Je retire les constantes parce que en fait je m'intéresse uniquement à l'ordre de grandeur. Ce qui veut dire en fait que ce calcul-ci, en termes de cons, il évolue comme le carré de la longueur de son premier terme, alors que ce calcul, non pas celui-ci, mais le calcul de Happen qui se trouve sur le tableau, évolue comme la puissance 1 de la longueur du premier terme. Donc celui-ci est linéaire sur la longueur de son premier terme, celui-ci est quadratique, carré, sur la longueur de son premier terme. Ce qui veut dire que celui-ci consomme donc le carré par rapport à cette consommation-là. Donc cet algorithme-là n'est absolument pas à envisager pour faire un quelconque calcul, il est trop mauvais. Alors, comment peut-on se rendre compte, en fait, il faut, comment dire, de tout ce que je viens de raconter, ben, il faut en fait développer un certain sens de la programmation pour effectivement voir ce que l'on est en train de faire, et il faut se rendre compte que quand en fait on regarde le code de ajouter 1, un argument simple permet de voir qu'effectivement, ajouter un terme à la fin d'une liste, c'est effectivement il y a un nombre de cons qui est proportionnel à la taille de la liste. Et donc, pour ajouter un terme derrière une liste de 1000 termes, il faut 1000 cons. Pour ajouter un terme à la fin d'une liste de 1 million de termes, il faut 1 million de cons. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on rajoute qu'un seul terme, mais que comme je recopie en fait toute la liste pour rajouter un terme derrière, j'ai un coût qui est proportionnel à la longueur de la liste. Ce qui n'est pas le cas de ça, parce qu'en fait, je reconstruis une liste qui a la longueur de la première, mais je colle la liste derrière, sans la regarder. C'est-à-dire que ce calcul-là est indépendant, en fait, de la taille de la longueur L2. Étant indépendant de L2, alors, eh bien, en fait, on ne peut avoir à ce moment-là qu'un coût linéaire plutôt qu'un coût quadratique comme ça. Donc, faites attention à ces choses-là. Quand vous avez plusieurs arguments de type liste, il n'est pas correct de faire de la récursion sur n'importe lequel d'entre eux. Il faut bien réfléchir effectivement à ceux qui sont, comment dire, utiles par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et rappelez-vous qu'il y a une dissymétrie flagrante dans la construction des listes, puisque cons permet de rajouter des choses devant une liste, ne permet pas de rajouter des choses derrière. Donc on a tendance à privilégier toujours les algorithmes qui, je dirais, travaillent en gros par la gauche pour rajouter des termes devant plutôt que de rajouter des termes en fin de liste parce que ça ne marche pas, c'est compliqué. Alors, je vous propose un exemple maintenant un peu plus complexe qui sera la somme cumulée qui prend une liste de nombres et qui va fabriquer la liste de leurs sommes partielles les unes après les autres. Alors, vous avez la spécification donc qui se trouve au tableau. On va prendre une liste de nombres donc qui se trouve ici en type. Vous m'avez l'air bien dissipé aujourd'hui. Si vraiment vous avez envie de discuter, il y a d'excellents cafés chauffés ailleurs. Alors, la somme cumulée prend une liste de nombres, et l'idée est de rendre une liste de nombres qui va correspondre aux sommes cumulées de ça. La somme cumulée, par exemple, de 1, 2, 3, 4, va rendre la liste qui va dire la somme cumulée de 4, c'est 4, la somme cumulée de 3, 4, c'est 7, la somme cumulée de 2, 3, 4, c'est 9, et la somme cumulée donc de 1, 2, 3, 4, c'est 10. Donc vous voyez en fait qu'à chaque instant, j'ai à, comment dire, ici, la somme de tous les termes qui sont au moins de ce rang-là dans la liste initiale. Donc quand par exemple je regarde le troisième terme, je vais avoir ici 7, la somme de tous les termes à partir du troisième terme dans la liste initiale. Donc je veux programmer ça, simplement, donc, cette fonction somme cumulée qui va calculer ces choses-là. Alors, réfléchissons, comment peut-on faire pour faire ça? On reprend nos petits dessins, à savoir, on a une liste de nombres, et comment peut-on faire pour calculer ces fameuses sommes? Sachant que notre seul, comment dire, atout est, pour l'instant, la récursion. Donc j'ai une liste avec des termes N1, N2, etc., etc., NP, et je dois fabriquer une liste qui a la même taille, mais ici, je dois fabriquer NP, ici, je voudrais fabriquer NP moins 1 plus NP, et d'une certaine manière, en fait, le terme que je veux fabriquer ici, c'est la somme de tous les N indices I pour I égale J jusqu'à P, sachant que à ce terme-ci, J égale 2, c'est-à-dire je fais la somme de 2 à P, ici je fais la somme de 3 à P, etc., etc., et là je fais la somme de P à P. Et donc le dernier ici, c'est la somme de tout le monde. Bon, j'ai un peu qualifié mon problème. Je peux déjà voir tout de suite que le cas de base est vraiment trivial, à savoir que quand j'ai une liste vide, la somme cumulée, c'est vide, parce que comme il n'y a aucun terme, a priori, il n'y a aucune somme à faire. Quand j'ai une liste qui contient un unique terme, on voit aussi que la somme cumulée est triviale à calculer, puisque une somme cumulée d'une liste qui contient uniquement un terme, c'est ce terme même, puisqu'il est sa propre somme. Donc l'idée, c'est de dire, si je savais en fait calculer la chose qui est là, comment pourrais-je calculer le terme qui se trouve ici? Ou plutôt le premier qui se trouve ici. Donc ça, c'est le sigma de tous les ni pour i égale 1 à p. Eh bien, en fait, on voit que, et c'est là qu'il nous faut penser un peu en termes de récurrence, puisqu'on est sur l'arithmétique, la somme de tous les nombres de 1 à p qui se trouvent ici, c'est en fait le premier, n1, plus la somme de tous les autres qui vont de 2 à p, dni. C'est-à-dire le premier plus la somme-là. Mais cette somme-là, c'est justement ce terme-là. Donc d'une certaine manière, la structure de la liste, c'est que, si je la donne ici, à chaque fois le premier terme qui se trouve ici, c'est en fait la somme de la somme cumulée qui se trouve ici, plus le terme initial qui se trouve dans la liste de même rang. Donc en gros, ce terme-là, c'est N1 plus la somme du terme qui se trouve juste derrière lui, derrière. Ce qui est normal, puisque ce sont des relations arithmétiques simples, le 10 qui est là, c'est 9 plus 1. Et donc j'ai un moyen maintenant de le calculer, qui est de dire que soit la liste contient plus qu'un terme et la somme cumulée c'est ce terme-là, soit elle contient plusieurs termes et à ce moment-là, le premier terme du résultat, c'est la somme cumulée sur tous les autres plus le premier terme de la liste initiale. Alors allons-y, essayons d'écrire ça et c'est ce qui arrive ici pour effectivement expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc premier cas, je prends la liste des nombres et je teste si elle n'est pas vide. Alors, si elle est vide, on a dit qu'on admettait que la somme cumulée de la liste vide, c'était la liste vide, je rends la liste vide et on n'en parle plus. Deuxième cas, la liste L est pleine, c'est-à-dire qu'elle contient au moins un terme. Là encore, rappelez-vous, on avait un cas de base qui est de dire la somme cumulée d'une liste de un terme, c'est la liste elle-même. Donc si la liste ici ne contient pas de terme derrière le premier, c'est-à-dire est limité à un seul terme, alors le résultat, c'est la liste tout entière. Et donc là, vous retrouvez dans ces deux cas-là, ici, les deux cas de base. Le cas de base qui dit, si vous me donnez une liste vide, je vous rends une liste vide. Si vous me donnez une liste de un terme, je vous rends cette liste à un terme. Donc maintenant, le cas intéressant, c'est le cas où la liste a au moins deux termes, un premier et un second. Donc dans ce cas-là, en fait, si je reprends mes petits dessins, que va-t-il se passer? J'ai une liste qui contient N1, qui contient N2, puis des choses derrière, mais je ne sais pas combien. Ce que je vois, c'est que si j'appelle mes sommes cumulées, je vais fabriquer ici un résultat qui conduira à la fameuse somme cumulée de tous les N2 jusqu'à NP, enfin à la fin, etc., des choses derrière dont je me moque. Et par contre, en ayant la liste initiale et le résultat sur tout le reste de la liste, je vois bien que le terme qui est ici, c'est N1 plus celui-ci. Donc je vais en fait prendre celui-ci, prendre celui-là, et je vais additionner les deux pour obtenir le terme qui est là. Donc, puisque c'est ça, ça veut dire que je vais fabriquer ici, cons, une somme qui est la somme du premier terme de la liste initiale et de la somme cumulée de tous les autres qui sont là. Alors, là au passage, j'ai fait un let parce que une fois que j'ai calculé ce terme-là, il faut que je mette derrière tous les autres qui sont là. Mais tous les autres qui sont là, je les ai déjà calculés puisque j'ai eu besoin de celui-ci pour arriver à calculer celui-là. Donc j'ai en fait calculé une fois cette liste-là, et c'est l'objet de mon let, où j'ai mis dans une variable que j'ai appelée reste fait, la somme cumulée de tous les termes qui se trouvaient derrière. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dire, je prends le premier des termes de ma liste initiale et le premier des termes de mon résultat sur le reste pour fabriquer le premier terme de mon résultat. Et maintenant, derrière ce premier terme, je n'ai plus qu'à replacer le résultat de tous les autres qui sont derrière. J'ai, ce faisant, utilisé la somme cumulée du reste une fois, deux fois, et je ne l'ai calculé qu'une seule fois. Donc en fait, ce code-là me permet de dire, 1, je calcule le reste cumulé de tous les autres termes qui sont là, les voici. 2, maintenant que je l'ai nommé reste fait, je prends son premier terme et celui-ci et je calcule celui-là. Et ensuite, je fais une liste en disant, le premier terme c'est celui-là, suivi de tous ceux qui sont là. Et je reprends ma somme cumulée de tous les autres que j'avais mis dans reste fait pour fabriquer le résultat qui est là. Donc, si je reprends, soit la liste est vide, il ne se passe rien, soit la liste contient un unique terme et je rends la liste elle-même, soit la liste contient au moins deux termes, et à ce moment-là, si elle contient au moins deux termes, le coup d'heure ici contient au moins un terme, si le coup d'heure contient au moins un terme, ça veut dire que la somme cumulée contient au moins un terme, puisque la somme cumulée rend une liste qui a toujours la même taille que la liste initiale. Donc si le CDR de L ici a au moins un terme, alors le résultat reste fait à au moins un terme. Si le résultat reste fait à au moins un terme, je peux prendre son quart, et en faisant le premier terme du résultat plus le premier terme de la liste initiale, j'obtiens le premier terme de mon résultat à moi. Et il ne me reste plus qu'à mettre derrière tous les autres termes qui se trouvent derrière. Donc vous voyez là un algorithme qui est un petit peu moins simple que les précédents, mais qui effectivement permet de calculer même la somme cumulée en mettant en facteur le reste de manière à ne pas le calculer deux fois, mais à l'utiliser deux fois aux deux endroits où j'en ai besoin. Alors voici quelques éléments de trace pour voir effectivement comment ça se passe. Et ce genre de trace en fait vous montre bien que le calcul est linéaire, à savoir que la liste cumulée 1, 2, 3, 4 s'appelle récursivement sur la liste cumulée 2, 3, 4, puis la liste cumulée 3, 4, puis la liste cumulée 4. La liste cumulée 4 est une liste de un terme. Je suis dans un cas de base. Le résultat, c'est cette liste-là. Donc, la somme cumulée de 4, c'est 4. Maintenant, je n'ai plus qu'à combiner la somme cumulée de 4 ici avec le premier terme 3, et j'obtiens donc la liste 7, 4. Puis, je n'ai plus qu'à combiner le 7 que j'ai obtenu ici avec le 2 qui est là pour fabriquer le 9 qui est là, et derrière je colle les 7, 4. Puis je n'ai plus qu'à fabriquer l'addition entre le 9 qui est là et le 1 qui est là, ce qui me donne 10, et derrière je colle tous ceux que j'avais déjà calculés. Et donc ce faisant, j'ai calculé ma somme cumulée sur tout l'ensemble. Donc là vous voyez typiquement, quand on trace, un tracé qui suggère que effectivement l'algorithme est linéaire, c'est-à-dire en fait que il utilise un nombre de pas qui est égal à la taille de l'argument initial. La taille de l'argument initial, là, c'est une liste de 4 termes. Il y a 4 appels récursifs et puis les 4 résultats qui se dépilent, normalement. Et donc ça, c'est typiquement, effectivement, le tracé, si j'ose dire, ou la trace de quelque chose qui est linéaire. Ce qui veut dire que pour arriver à traiter une liste, par exemple, qui ferait 1 million de termes, j'ai besoin d'un million d'additions, point. Et je n'ai pas besoin de 1 million au carré additions ou des choses comme ça. Donc j'ai typiquement, là encore, un algorithme qui est linéaire sur la taille de son entrée et qui fait autant d'additions qu'il y a de termes dans la liste initiale qui se trouve là-bas. Alors, ce que l'on peut voir, en fait, quand on reprend le code qui est là, c'est que si on essaye de le regarder avec un œil, donc sur l'efficacité, et je le rappelle, l'efficacité est un problème des informaticiens pour obtenir des choses qui sont faisables et non pas où il faut attendre la cinglingling pour obtenir le résultat. On regarde son code après pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui seraient faites en fait de façon multiple et qui pourraient être factorisées, améliorées, optimisées, comme on dit. En fait, quand on regarde ce code-là, un œil un peu, habitué remarquerait qu'il y a des tests que l'on fait 2 fois. Et si on fait 2 fois les tests, ça veut dire que c'est une perte d'efficacité, pas énorme, mais que si je fais certains tests 2 fois, on verra qu'il y a moyen d'être 2 fois plus rapide sur cette fonction-là que ça. Alors regardons exactement pourquoi il y a 2 tests. Vous voyez que la somme cumulée ici ferait un premier test pour dire est-ce que L est vide. Et puis un second test qui est-ce que L contient un unique argument. Et vous savez que le cas général, celui qui tourne tout le temps, c'est le cas où la liste L contient au moins 2 termes. Le premier et le deuxième, et après je ne sais pas. Ce qui veut dire que, à un premier appel récursif, vous testez dans le cas général si L contient au moins 2 termes. Et si L contient au moins 2 termes, vous partez en récursion avec L privé de son premier terme. Mais si L contient au moins 2 termes lors de l'appel ici, ça veut dire que le coudeur de L contient au moins 1 terme. Et s'il contient au moins 1 terme, ça veut dire que ce test-là, quand vous repassez dedans en récursif, n'a aucun intérêt puisqu'il est toujours vrai. Il est vrai la première fois que vous rentrez en somme cumulée, il n'est pas vrai quand vous rentrez dans somme cumulée en venant de là, parce que si vous avez été appelé ici, vous savez que L fait au moins 2 termes, et donc à ce moment-là, ce test-là sera toujours vrai. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans la trace, le cas d'arrêt, c'est la liste à 1 terme, ce n'est pas la liste à 0 terme. Or, en fait, dans le code initial, il y a 2 cas d'arrêt, le cas de la liste vide et le cas de la liste à 1 terme. Mais si vous partez avec une liste qui contient n termes où n est plus grand que 1, le cas d'arrêt qui se déroulera, qui arrivera, c'est n égale 1, c'est pas n égale 0. Donc on voit bien que le cas n égale 0 ne peut arriver que dans un unique cas, c'est quand vous appelez somme cumulée la première fois avec une liste vide. Dans tous les autres cas, ça n'arrivera jamais. Et non seulement ça n'arrivera jamais, mais en fait, parce que vous avez écrit votre code comme ça, en fait, cet appel récursif là va retester que la liste dont je sais qu'elle a au moins 1 terme, vous allez retester qu'elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide puisqu'elle a au moins 1 terme. Et donc là, il y a une source d'inefficacité. Vous voyez que l'inefficacité, là, est un petit peu, délicate à saisir parce qu'elle intervient entre un appel récursif et l'appel récursif suivant. Au moment où on fait l'appel récursif interne ici, on sait des choses sur elle. Et ce que l'on sait là permet, en fait, d'une certaine manière de dire ce que j'aimerais bien faire, c'est sauter directement là, ici, parce que si je sais que la liste a au moins 2 termes ici, à cet endroit-là, elle en a au moins 1 dans le coudeur, et quand j'appelle somme cumulée, elle en a au moins 1. Maintenant, la vraie question, c'est que dans l'appel récursif, je sais que ceci ne sera jamais vrai, mais est-ce qu'elle a au moins 2 termes? C'est-à-dire, est-ce que la liste initiale avait au moins 3 termes? Ça, c'est une nouvelle question à laquelle je ne sais pas répondre et qu'il faudra que je pose à la donnée. Mais savoir que la donnée n'est pas vide lorsque je viens de là, c'est trivial. Donc l'idée est de se dire, est-ce qu'il y a moyen d'écrire cette fonction-là de manière plus subtile, de manière à éviter ce double test? Eh bien, il y a moyen, et la façon standard de faire ça, est en fait d'utiliser une sous-fonction interne, ce que l'on va voir ici. Alors, syntaxiquement, quand vous regardez cette définition-là, ce qui peut vous frapper, c'est que la définition de la fonction commence ici, avec le nom, son argument et la parenthèse fermante ici, et le corps de la fonction se trouve ici. Vous pouvez aller parler dehors, s'il vous plaît. Vous pouvez aller parler dehors, s'il vous plaît. Prenez pas un air ahuri, je vous demande de parler dehors. C'est pas la peine de venir ici pour parler. Allez ailleurs, il y a des cafés, il y a tout. Donc vous voyez syntaxiquement la chose suivante. J'ai une définition de fonction, la fonction s'appelle somme cumulée, elle prend un L, et son corps se trouve ici. Et entre la définition de la fonction et le corps qui se trouve ici, se trouve la définition d'une sous-fonction. C'est-à-dire une fonction qui n'est, comment dire, qui n'est licite, qui n'est utilisable qu'à l'intérieur de cette fonction-là. En gros, vous faites une sous-définition à l'intérieur d'une définition en disant je définis la somme cumulée de L comme étant ceci, dans lequel la SC non vide, la fonction que j'utilise, est définie comme étant ceci. Et là, vous voyez que, en fait, je définis une sous-fonction parce que je mets en commun, en fait, d'une certaine manière, du code. Fabriquer une fonction, c'est mettre en commun du code quelque part, de manière à obtenir un certain comportement. Je crée cette sous-fonction-là, et maintenant, je l'utilise à cet endroit-ci. Cette sous-fonction que je crée en interne n'est visible que de cette fonction-là. Vous ne pouvez pas la voir de l'extérieur. C'est comme un let. C'est pas tout à fait techniquement un let, mais c'est une définition, un let, vous savez que ça introduit une variable locale qui n'est utilisable que dans le corps du let. Eh bien, un define de fonction interne, c'est un peu comme un let. Et donc, là, vous introduisez une petite fonction locale pour faire un traitement, et cette fonction locale n'est utilisable que dans le corps de cette fonction somme cumulée. À l'extérieur, vous ne voyez pas la fonction SC non vide, puisque, comme je l'ai dit, un peu comme un let, elle n'est visible que dans le corps du let. Alors, cette fonction SC non vide, en fait, elle s'appelle récursivement, vous voyez qu'elle s'appelle récursivement là, et l'astuce, en fait, c'est que SC non vide est ce qu'on appelle une version spécialisée de somme cumulée dans le cas où elle n'est jamais vide. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une fonction initiale qu'on appelle une fonction d'interface qui dit, si vous me donnez une liste L, je vais vous calculer votre somme cumulée. Et cette liste, comment dire, cette fonction interface ne fait qu'une seule chose. Vérifier si on est dans le cas de base, la liste est vide, je rends la liste vide. Ou qu'on n'est pas dans le cas de base, auquel cas la liste L est pleine, c'est-à-dire qu'elle contient au moins un terme. Et à ce moment-là, j'appelle une nouvelle définition de somme cumulée non vide qui se trouve ici. Et cette définition de somme cumulée non vide, en fait, si vous regardez sa spécification, c'est exactement la même que pour somme cumulée, c'est-à-dire qu'elle calcule bien la même chose, sauf que elle a ajouté une contrainte qui est que la liste qu'elle reçoit en argument n'est pas vide, c'est garanti. C'est garanti parce que j'ai écrit le code ici qui permet de le vérifier. Donc si la liste n'est pas vide, j'appelle SC non vide et je vérifie la contrainte qui, effectivement, elle, n'est pas vide. Maintenant que elle n'est pas vide, je dis, puisque elle n'est pas vide, je peux prendre son coup d'œil sans avoir à vérifier, puisqu'on m'a garanti qu'elle n'était pas vide. Donc maintenant, je peux regarder s'il y a un second terme dans la liste, puisque je sais par définition que elle contient au moins un terme. Je regarde simplement si elle en contient un deuxième. Si elle n'en contient pas un deuxième, je rends la liste elle. Si elle en contient un deuxième, je refais exactement ce que j'avais fait auparavant, à savoir appeler récursivement SC non vide sur le reste de la liste, obtenir la liste des résultats et fabriquer une nouvelle liste dans laquelle j'additionne le premier des termes initiaux avec le premier des résultats et le reste des résultats derrière. Ce que vous voyez, c'est que l'appel à SC non vide ici marche bien parce que ici, j'ai testé si la liste L contenait au moins deux termes. Si la liste L contient au moins deux termes, ça veut dire que son coudeur contient au moins un terme. Et si son coudeur contient un terme, je peux appeler SC non vide, puisque si elle contient au moins un terme, c'est qu'elle n'est pas vide. Et donc, cet appel récursif vérifie bien la même contrainte qui se trouve ici. Donc, voyez ce que maintenant, c'est que l'appel récursif SC non vide appelle directement cette chose-là, qui dit, je sais déjà, par construction, qu'on a un premier terme, Il me suffit de vérifier est-ce qu'il y a un second terme ou pas. Et du coup, vous voyez que maintenant, l'appel récursif essai non vide, qui boucle comme ça, si vous voulez, ne fait qu'un seul test sur le coudeur de la liste, alors que dans le cas précédent, l'appel récursif ici qui allait à cet endroit-ci faisait deux tests systématiquement. La fonction donc, ici, est en fait, en termes de test, deux fois plus rapide que la précédente. Elle fait deux fois moins appel à pair point d'interrogation, et donc de ce fait, elle est beaucoup plus rapide. Donc là, vous voyez un exemple de fonction interne qui permet de se mettre dans un cas particulier, le cas où la liste L n'est pas vide, de manière à effectivement avoir une efficacité plus grande pour ce cas particulier, ce cas particulier étant en fait le cas général de la récursion des sommes cumulées. Donc, bien sûr, quand vous faites des listes de 3 ou 4 termes, ça ne change pas grand-chose, mais lorsque vous avez des termes qui font des millions et des millions de longs, vous sentez effectivement la différence entre un algorithme qui est deux fois plus rapide et un algorithme qui est deux fois plus lent. Bien. Par contre, vous avez vu qu'à chaque fois j'ai utilisé un let pour stocker le résultat de l'appel récursif sur le reste de la liste. Ici, c'est la même version, sauf que je n'ai pas mis le let. Je n'ai pas mis le let. Et donc, j'ai calculé deux fois la somme cumulée qui se trouve à ces deux endroits-là. Or, il faut absolument que vous, soyez certain que si vous faites des appels récursifs sur des choses que vous ne mettez pas en facteur, vous pessimisez les calculs de manière extraordinaire. On a vu que le calcul ici, qui est un peu optimisé par rapport à ce calcul-ci, est un calcul linéaire, à savoir que le nombre de cons qui est fait ici et le nombre d'additions est strictement égal au nombre de termes de la liste initiale ici. Et c'est, comme je vous l'avais dit, ce qu'on appelle un algorithme linéaire. Si on me donne une entrée qui est une liste de n termes, eh bien j'ai besoin de n appels à cons et de n additions pour fabriquer le résultat. C'est linéaire. Maintenant, si vous regardez cette chose-là, quelle est la complexité de cette chose-là ? C'est-à-dire, combien va-t-il y avoir d'appels à cons et combien va-t-il y avoir d'additions ? Alors, l'addition, en fait, se fait en une instruction assembleur, alors que cons, il en faut à peu près une centaine. Donc là encore, je vais m'intéresser uniquement au nombre d'appels à cons pour faire cette chose-là. Donc si je suppose que j'ai une liste de 4 termes, donc A, B, C, D, je vois que j'appelle somme cumulée avec 3 termes, et j'appelle somme cumulée avec 3 termes. Donc quand j'ai un appel à 4, je résous ça en 2 appels à ABC. Mais ABC, c'est lui-même, de par le code du fait qu'il y a 2 appels récursifs, ça va être un appel à ABC va faire 2 appels à AB, et le second appel à ABC va faire en fait 2 fois 2 appels à AB. Et celui-ci va faire 2 appels à A. Ce qui veut dire que vous allez avoir 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 appels récursifs sur la liste ici. Ce qui veut dire que maintenant, au lieu d'être linéaire sur le nombre de termes, vous avez une liste de 4, vous êtes déjà à 2 puissance 3, vous êtes exponentiel. C'est-à-dire qu'en gros, la complexité de ce truc-là, c'est en gros 2 puissance n. Et vous êtes passé d'un calcul linéaire à un calcul qui est en 2 puissance n. Un calcul qui est en 2 puissance n, vous ne pouvez pas dépasser 10 ou 12. Okay? Un calcul linéaire, vous pouvez faire des millions, des milliards. Donc vous voyez tout de suite qu'un calcul exponentiel, c'est surtout pas à faire. Donc j'ai mis à ne pas imiter, si vous avez écrit ces trucs-là sur vos cahiers, coché, gommé, gratté, etc., et mettez non, 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 c'est extrêmement pénible. La règle est simple. Quand vous avez des appels récursifs, et si jamais ils sont, ils correspondent au même calcul, surtout, mettez-les en facteur. Parce que sinon, vous dupliquez ou vous multipliez la complexité de votre algorithme d'un facteur extraordinaire du fait du pouvoir d'amplification de la récursion. Donc la bonne solution, comme ça a été fait dans les exemples précédents, c'est de nommer le calcul qui a été fait de manière à ne le faire qu'une seule fois. Donc là, c'était une illustration de cette chose-là. Vous voyez que le calcul de 1, 2, 3, 4 fait les appels récursifs, mais là, vous voyez que le calcul de 3, 4 fait 2 appels à 4, mais comme il y a, dans le calcul de 2, 3, 4, il y a 2 appels à 3, 4, ici et là, Les deux appels de 3-4, chacun font 2 appels à 4. Donc on est déjà à 4 appels à 4 pour 2 appels à 3-4. Et on continue, puisqu'en fait, pour l'appel à 1-2-3-4, il y a un appel à 2-3-4, mais il y a un second appel à 2-3-4. Et voici donc le second appel à 2-3-4. Et donc voyez bien en fait que par rapport au calcul initial qui donnait un calcul linéaire, je parcours, je calcule. Ici maintenant, on a un parcours où on refait le calcul sur 4 8 fois, on refait le calcul sur 3-4 2 fois, non 3 fois, non 4 fois, et on refait le calcul sur 2-3-4 2 fois. Et donc ça veut dire que en fait, vous payez tous les facteurs là et très très vite, vous êtes exponentiel et vous ne pouvez plus rien faire. Alors, on va prendre encore quelques exemples, et ce coup-ci avec des exemples un peu plus ludiques, sur des images. Dans la bibliothèque Steam qu'on vous a donnée, il y a toute une partie graphique qui permet de faire des petits dessins, et notamment vous avez une fonction qui s'appelle fill triangle, qui permet de dire, donc quand vous donnez ces arguments-là, je vais les expliquer, vous fabriquez un petit dessin qui fait 100 pixels sur 100 pixels, avec un triangle noir sur un carré blanc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le repérage dans ce carré est fait comme ceci. Voici l'image. Vous avez des axes X et Y qui sont comme ceci et les coordonnées varient entre plus 1 et moins 1, moins 1 et plus 1. Donc quand vous avez effectivement un triangle qui est 0, 0, c'est ce point-là. Ensuite, le deuxième point, c'est 1, 1, c'est ce point-là. Le troisième point, c'est 0, 1, c'est ce point-ci. Eh bien, vous hachurez ce triangle-là et vous obtenez effectivement la figure qui se trouve ici. Donc voilà en gros les petits dessins avec ces triangles-là. Là, ce qu'on a envie de faire, c'est une fonction qui s'appelle 4 rotations et qui, à partir de ça, va permettre d'obtenir ce petit dessin-là. C'est en fait ce dessin-là qu'on tourne, de 90 degrés, puis de 180, puis de 270, et on superpose toutes les images les unes au-dessus des autres. Donc l'idée est que 4 rotations d'une image permet de donner l'image obtenue par tourner 4 fois l'image et superposer les 4 images obtenues. Donc comment peut-on faire ça? Eh bien en fait, on a dans la bibliothèque de base une autre fonction qui s'appelle Quarter Turn Right, qui permet de tourner une image d'un quart de tour. Du coup, l'algorithme paraît trivial. Pour obtenir l'image fabriquée avec les 4 rotations, j'ai oublié une fonction particulière qui s'appelle overlay. Overlay, c'est des superpositions. C'est l'idée de dire overlay prend une suite d'images et les met et fabrique une image qui est la composée de toutes ces images-là. Donc overlay dit je fabrique une image qui est la superposition de la première image ici, de la deuxième image ici, de la troisième là et de la quatrième là. La première, c'est l'image normale. La seconde, c'est l'image normale qu'on a tournée de 90 degrés à droite. La troisième, c'est l'image normale qu'on a tournée 2 fois de 90 degrés à droite. Et la quatrième et dernière, c'est l'image initiale qu'on a tournée 3 fois de 90 degrés vers la droite. Et donc, en superposant les 4, j'obtiens le résultat qui se trouve ici. Donc, les 4 arguments d'overlay sont le petit triangle là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et je les ai obtenus en faisant tourner cette image, donc, successivement. Alors, ça c'est du code, je dirais, normal, sauf que là encore, vous pouvez vous dire, mais attendez, au point de vue de la complexité, ce code est débile. Il est débile parce qu'en fait, vous voyez bien qu'il y a des tas de choses que je recalcule des tas de fois. Par exemple, l'expression quarter turn right image, elle apparaît ici, parce que j'en ai besoin, mais elle apparaît aussi ici, et elle apparaît aussi ici. Donc en fait, j'aimerais bien pouvoir replacer l'image que j'ai calculée ici à cet endroit-là pour pouvoir juste la décaler et à cet endroit-là encore. Donc l'idée est de dire, eh bien en fait, il suffit de nommer les résultats intermédiaires et en nommant les résultats intermédiaires, j'obtiens exactement ce que je souhaite, à savoir le overlay ici, c'est l'overlay de l'image initiale, de l'image tournée de 90 degrés, de l'image tournée de 180 et de l'image tournée de 270, sachant que l'image tournée de 90 degrés, la voici. L'image tournée de 180, c'est celle tournée de 90 tournée encore une fois, et celle tournée de 270, c'est celle de 180, tournée de 180 encore tournée une fois. Et là, vous voyez que maintenant, l'appel, il y a trois appels à quarter turn right, point, alors que ici, on en avait 2, 3, 4, 5, 6. Alors, là, on est passé de 3 à 6. Si on avait tourné seulement, par exemple, de 45 degrés, ce qui n'est pas possible avec cette petite bibliothèque, vous auriez en fait payé un surcoût encore plus fort, puisque vous auriez fait plein de choses ici, de, comment dire, sempiternellement, alors que là, ici, vous les faites de façon, je dirais, standard. Donc voilà une façon de faire pour, effectivement, nommer des calculs intermédiaires de manière à ne pas les refaire. Car c'est toujours la clé du succès que de ne pas refaire des calculs qu'on a déjà faits. Maintenant, en termes syntaxiques, il existe une forme particulière en Scheme qu'on appelle let étoile et qui permet d'avoir une graphie un peu plus, comment dire, un peu plus plaisante pour cette suite de lettres imbriquées. La graphie est la suivante. On écrit la même chose sous cette façon-là. Let étoile est une forme spéciale, c'est-à-dire que comme let, elle a une règle très particulière d'évaluation. Rappelez-vous qu'un let dit « je définis des variables locales qui sont ici » avec des valeurs qui se trouvent ici. Sauf que les variables qui sont créées au niveau d'un let ne sont visibles que du corps du let qui se trouve ici. Les variables qui sont créées dans un let étoile ont une propriété supplémentaire. Dès qu'une variable est calculée, elle devient visible aux expressions qui suivent ici. C'est-à-dire que le rota 1 ici, la variable rota 1 qui est ici, c'est celle-là en fait. Donc dès que vous calculez ce truc-là, vous le mettez dans rota 1, et dans rota 1, maintenant, vous pouvez l'utiliser dans tous les calculs qui suivent. Donc là, j'ai utilisé rota 1 pour calculer rota 2, et j'ai utilisé rota 2 pour pouvoir calculer rota 3. C'est simplement une graphie, comment dire, plaisante, qui permet d'avoir un peu moins de parenthèses, mais qui n'est en fait absolument pas primitive, parce que on a bien vu que let permet de faire exactement la même chose. Simplement, en général, vous savez que dans tous les livres, on introduit un système de notation, et ensuite on introduit souvent un système d'abréviation disant, et dans les cas évidents, on se permet aussi d'écrire ceci ou cela. Eh bien, en Scheme, la chose primitive est effectivement de pouvoir créer des variables locales, mais comme souvent, en fait, on a pas mal de variables locales à créer dans des calculs compliqués et qu'on a besoin d'un grand nombre de lettres imbriquées et qu'on n'aime pas trop imbriquer ces choses-là à des profondeurs déraisonnables, on préfère la graphie suivante qui ne permet en fait de faire qu'un seul bloc et dans ce bloc-là, eh bien, je mets mes trois variables qui sont calculées les unes après les autres, sachant que chacune, dès qu'elle est calculée, peut être utilisée dans la suite ici. Au passage, vous remarquerez qu'on peut mettre un let dans un let étoile ou un let étoile dans un let parce qu'il n'y a aucune restriction de composition de ces différentes formes-là. Et donc, par exemple ici, pour vous montrer, j'ai fait un let qui utilise les images, les rota 1, les rota 2, les rota 3, c'est-à-dire que je fais deux superpositions que je resuperpose avec overlay ici. Overlay est une fonction comme list qui prend un nombre quelconque d'images et qui vous fait la superposition de toutes ces images-là les unes après les autres. Donc là, j'ai fait une première superposition de la première et de la deuxième, une deuxième superposition de la troisième et la quatrième, et ensuite une superposition de ces deux images-là qui donc concentre les quatre images initiales. Alors, je vous propose une autre illustration. Donc maintenant, on suppose que j'ai cette image-là, et je voudrais faire ceci, à savoir une liste avec cette image-là cinq fois. Donc, c'est une liste, parce que regardez, ici, il y a la parenthèse ouvrante, et j'ai fait une liste d'images, et la parenthèse fermante se trouve ici. Donc l'idée, en fait, est de dire, j'aimerais faire une fonction qui, quand on me dit, on me donne un nombre et une image, est capable de faire une liste de 5 fois cette image-là. Et donc là, on a en fait une récursion sur des listes, ou sur des nombres plus exactement. Alors allons-y. Liste image idem, donc c'est une liste d'images qui sont toutes les mêmes, ça prend un nombre, une image, et ça fabrique une liste d'images. Donc comment faire ça? Eh bien, vous avez un nombre et vous devez fabriquer une liste. Donc manifestement, au point où vous en êtes, ça ne peut être qu'une récursion sur les nombres. Et donc on voit bien que je vais devoir faire une liste de n fois une image. Donc si n est plus grand que 0, la liste va commencer par une image. Et puis si on me demande par exemple une liste de 5 images, je vais faire une liste avec une image et derrière il y en aura 4. Comment ferais-je pour faire une liste de 4 images? Eh bien j'appellerai liste image avec 4. Et quand on me demandera une liste de 0 images, je dirai pas de problème, c'est la liste vide. Et donc le code en fait est très simple. Si n est positif, je fabrique une liste où le premier terme est l'image et où les termes qui suivent sont les images répétées n moins une fois. Donc pour fabriquer 5 images, je fabrique une liste qui en contient une, suivie d'une liste qui en contient 4. Et donc maintenant je pars en récursion, et quand on me demande de fabriquer une liste qui contient 0 images, eh bien je dis c'est la liste vide, et j'ai terminé. Donc voyez là, très simplement, que je peux prendre une image et un nombre, et fabriquer une liste de toutes ces images-là. Alors, je pense avoir encore un exemple là, qui est que, là ici, je veux faire une chose un peu différente, à savoir prendre une liste d'images et les superposer toutes. C'est-à-dire que je veux faire un peu comme Overlay, mais Overlay prend des images en arguments, là je veux prendre un unique argument qui est une liste d'images. Donc j'ai un nombre d'images, mais je ne sais pas combien, et je vais faire leur superposition à toutes. Eh bien là encore, c'est une récursion sur les listes qui est triviale, puisque si on me donne une liste où il y a 0 image, je rends. Donc si j'ai une liste d'images, et si la liste d'images ne contient rien, eh bien je réponds l'image vide, c'est l'image qui correspond au carré qui contient rien, le carré blanc. Et dans le cas où il y a des images, ça veut dire qu'il y en a une première et qu'il y a les autres. Alors, je vais faire un overlay de la première et de l'appel récursif à toutes les autres en disant, fabrique-moi la superposition de toutes les autres. Donc, si on me donne 5 images, je vais faire un overlay de la première et de la superposition des 4 dernières. Mais comment vais-je faire pour faire la superposition des 4 dernières? Appeler la même fonction. Et donc, ça continue, jusqu'à ce que la liste d'images soit vide, auquel cas, il me suffit de dire, pour fabriquer la superposition d'une liste d'images vide, eh bien, je réponds l'image vide. Et donc l'image vide, c'est le carré blanc, et le carré blanc a la propriété que quand vous le superposez à d'autres images, il ne montre rien puisqu'il est vide. Et donc vous voyez là encore qu'on a beau travailler sur des images, en fait, c'est une récursion sur les listes, toute bête, qui consiste à les superposer, les images les unes après les autres. Voilà, j'ai à peu près terminé. Je voudrais juste, là c'est juste pour montrer des exemples d'images un peu plus belles. Donc en superposant, etc., vous fabriquez ça. Et donc je voudrais juste revenir sur le fait donc que vous avez un site ici dans lequel se trouvent les transparents du cours, la bande son quand elle y est, etc., que vous avez un certain nombre de soutiens à différents endroits qui vous permettent de vous aider. Vous avez notamment les TP de soutien qui consistent à laisser les salles ouvertes une heure de plus pour que vous puissiez finir vos TP si vous le souhaitez. Vous avez une permanence à l'UTESS, les horaires sont marqués sur le site, c'est je crois le mardi matin et le vendredi matin. Vous avez un tutorat le mercredi de 9h à 12h dans les bâtiments de l'informatique. Et vous avez un forum où poser des questions avec quelqu'un qui y répond dans les 24 heures. Vous trouverez tous les détails là-dessus. Oui. Pardon. Le devoir sur table, il est en amphi. Ah, on a 8 amphis. J'ai pas marqué les amphis sur le site. Non, là non, mais sur le site, ils sont marqués. Il me semble que les Mias 12 sont en B1, B2. Il me semble. Hein. Les Mias 24, ça sera B1, B2 aussi. Oui, c'est pareil.
le contrôle concerne aussi les mesures. En fait, tu as contrôlé avec vous, c'est ça?
Oui, oui. Ça sera en amphi B1, B2, je crois. Mais effectivement, il faut qu'on y pense, parce qu'à chaque fois, on a un peu tendance à oublier BIAS 24. Oui.
Et le sujet, c'est quoi c'est
il y a, sur le site, il y a toutes les annales des 4 dernières années.
Je crois qu'en Internet, je
Ah, d'accord. Vous pouvez aller à l'UTES pour consulter.
Ouais, bravo. Vous savez pas sur quel sujet
ce sera.
C'est
des récursions. C'est des récursions sur les noms et sur les listes.
Et c'est sur le conseil la semaine prochaine ou pas?
Non. Non, non, c'est jusqu'à aujourd'hui. Oui.
Parce que nous, on a une méthodologie entre 9h30 et
11h30. Ah. Le problème, c'est que le tutorat, il est organisé pour les 4 sections à la fois. Et que donc, il n'y a que cet horaire-là. Le mieux, à ce moment-là, je pense que c'est que vous alliez à l'UTES pour poser des questions aux tuteurs qui y sont. Parce qu'ils ont des horaires qui sont différents et donc vous pourrez à ce moment-là y aller. Il y a encore un créneau. Attendez, le mardi matin, vous avez regardé le site où j'ai marqué les horaires là où le tuteur se trouve à l'UTES, non? Alors, regardez tous les horaires. Et si vous me dites vous avez cours à ce moment-là, envoyez-moi un message. On essaiera de voir si on peut pas changer un créneau quelque part. Parce que on essaie de faire au mieux, mais bon. Oui. Oui, c'est simple. C'est la même syntaxe que le let.
Le problème, c'est les parenthèses, en fait.
Non, c'est simple. Un let, c'est comme ça. Let, et puis le corps et la fermante. Maintenant, il y a des variables locales. Les variables locales, on les met entre parenthèses. Et il peut y en avoir un nombre quelconque. Donc chacune des variables, c'est variable, valeur. Donc ça, vous le répétez un nombre de fois. Hein, variable-valeur, vous mettez tous les couples variable-valeur entre parenthèses et vous mettez les formes derrière. Le let étoile, c'est la même chose avec un étoile. La seule différence, c'est que dans un let, si vous écrivez par exemple V égale 1, W égale V, dans un let, le V qui est là, c'est le V extérieur. D'accord? Dans un let étoile, le V qui est là, c'est le V qui est là. La portée, je vous donne un autre exemple, X c'est W, la portée dans un let étoile, qu'est-ce que j'ai dit, V, la portée de V dans un let étoile, c'est ça. La portée du W, c'est ça. Ok? Alors que dans un let, si je reprends la même structure, let V1, WV, je m'arrête là, blablabla. La portée de V et W, c'est ça. Et ils ont la même portée l'un et l'autre. Ok? Mais V ne contient pas ça. Donc vous voyez que la seule différence du let étoile, c'est que la portée de V commence immédiatement après qu'il soit affecté et il contient la forme d'initialisation des variables qui suivent. Voilà. Il y a le cours entier hein, sur CD-ROM, donc en principe tout ça c'est expliqué, hein, c'est expliqué à l'envi.
Ouais. Parce qu'à la fin de chaque cours, il y a une application.
Oui, il faut que Dr. Skin tourne pour que ça puisse rendre.
Ah,
oui, c'est marqué en gros à plein d'endroits, mais vous n'avez pas dû. Non, en général les gens ils cliquent en se disant ça doit marcher, mais non, il faut. Le problème c'est que vous avez votre navigateur et le navigateur il interroge Dr. Skin pour les auto-évaluations. Et les auto-évaluations, elles sont corrigées par Dr. Skim qui les renvoie en HTML. Donc si vous ne le faites pas tourner, ça ne peut pas marcher. Ok? Donc vous lancez votre navigateur et Dr. Skim, et du coup, ils savent se parler entre eux. De rien. Oui? Oui? Vous n'êtes pas inscrit? Alors je vais demander. Si, logiquement, si. Ah, vous n'êtes pas tous inscrits?
Oui.
Bon, je vais le vérifier, je vais le noter.
Seulement, on a le CD et on vient d'avoir ce site que vous avez.
Oui, pour le WebCity, oui, effectivement, oui. Parce que l'idée, c'est que vous posiez, c'est un forum ou de discussion, où vous pouvez poser vos questions et on a un étudiant qui répond tous les jours, tous les deux jours, je crois, un tuteur, oui. Et donc, oui, non, c'est bon.
Vous voulez
Je... Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est parce que, comment dire, il ne faut pas l'éteindre trop tôt parce qu'il y a un ventilateur et si, comment dire, si vous le coupez trop tôt, la chaleur endommage la lentille. Enfin, pas la lentille, mais le comment dire, l'élément éclairant. Écoutez, je vais si c'est pas fait dans 3 jours, vous me renvoyez un message en disant que finalement vous n'êtes pas inscrit sur WebCity. Parce qu'effectivement, on a demandé à ce que ça soit fait, mais peut-être que ça n'a pas été. Mm-hmm. Bon. De rien. Voilà. Au revoir.